Alors, ce matin, c'est un thème un peu particulier. C'est le thème, j'aimerais juste quelques mots sur le thème de l'amour de la vérité. Et on va prendre un texte de base. Et puis on réfléchira, on n'est pas nombreux, donc on pourra un peu faire un peu d'interaction. Attention, ne vous endormez pas parce qu'il y aura des questions. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 16. Il est question de le contexte, c'est une épître par rapport à l'avertissement, par rapport à l'avènement du Seigneur. Donc les circonstances qui entourent l'avènement du Seigneur. Et c'est un avertissement qui est donné contre la séduction. Jésus en a donné aussi, tout dans le même contexte. Et là, on va lire les versets 7 à 16 de 2 Thessaloniciens 2. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes sortes de séductions, toutes les séductions d'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes, retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et toute bonne parole. Alors là, on met ce texte juste en parallèle avec Matthieu 24, hein, les disciples qui demandent à Jésus, mais c'est quand l'avènement de ton règne? Et Jésus, entre autres, au verset 4, il dit, Jésus répond, faites attention, ne vous laissez pas séduire. Donc on voit une insistance à la responsabilité de chacun d'entre nous de ne pas nous laisser séduire. Juste une précision aussi sur les premiers versets qu'on a lus, lorsqu'il est dit, il détruira l'impie par le souffle de sa bouche, il l'anéantira par l'éclat de son avènement. Vous voyez, il y a la bouche, le souffle de sa bouche, la parole de Dieu dans notre bouche, qui est une parole d'épée, qui est une parole pour le combat, mais aussi, pas seulement la parole, mais aussi l'éclat de l'avènement. L'avènement du Christ en chacun de nous, c'est lui en nous. Le combat spirituel commence par des paroles sur la bouche, mais il termine par le caractère de Christ en chacun de nous et l'avènement de ce caractère. Et donc, c'est les deux conjoints, pas seulement la parole sur la bouche. Il n'y a pas de victoire définitive avec seulement la parole dans notre bouche. C'est aussi l'avènement de Dieu sur la terre au travers de ses enfants. Donc maintenant, regardez, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous voyez, l'amour de la vérité. Déjà, on voit une chose, on voit que l'amour de la vérité, c'est quelque chose qu'on reçoit. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. C'est-à-dire que Dieu veut le donner. Hein? Rappelez-vous, il est dit, demandez et vous recevrez. Les choses que Dieu veut donner se demandent. Donc, est-ce qu'on a déjà pensé à demander l'amour de la vérité? D'où le message de ce matin. Parfois, on pense à demander des choses au Seigneur, mais je crois que l'amour de la vérité est une chose importante parce que dans ce texte, il nous montre que c'est le barrage à la séduction. Le barrage à la séduction n'est pas que le discernement, c'est l'amour de la vérité. Voyez, c'est ça qui est important et qu'on veut retenir ce matin. Alors, notre responsabilité, Jésus a dit, ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas tromper. Et cet avertissement nous montre que ce chemin avec Jésus, il n'est pas toujours facile. Le chemin de la vérité n'est jamais facile. Le chemin de la vérité n'est jamais facile. il est jalonné d'épreuves. Rappelez-vous la parabole du semeur. Hein, la parabole du semeur, il y en a qui n'ont pas de racines. Dès qu'une difficulté vient, les difficultés viennent. Hein, c'est ça que ça veut nous dire, cette parabole. Eh bien, à cause du manque de persévérance, eh bien, la semence ne porte pas son fruit. Donc, il y a une recherche parfois de l'Évangile. On cherche notre guérison, on cherche notre confort, on cherche notre paix. Et bien sûr qu'on a ces choses-là. Mais attention, si ce sont ces choses-là qui nous motivent, eh bien on risque très certainement de déraper et d'être séduit parce que cette recherche, cette motivation n'est pas la motivation pour marcher avec Dieu. C'est l'amour de la vérité qui doit être notre motivation. Ce n'est pas le confort. Le confort est un plus que Dieu nous donne quand on marche avec lui, bien sûr, parfois, mais parfois ce n'est pas le cas. Et c'est là qu'on voit, il y a une histoire pour illustrer ce principe de l'amour de la vérité, une histoire très étonnante dans la Bible, et j'aimerais qu'on la prenne ensemble, et on va réfléchir un peu là-dessus ensemble, parce que c'est vraiment un passage bizarre. C'est dans 1 Rois 13. Alors, je vous demande de lire ça attentivement, à l'éclairage de ce thème de l'amour de la vérité, et on va voir là l'histoire d'un prophète qui commence bien, mais qui termine mal, et de façon quand même bizarre, et parfois même, on pourrait dire, révoltante. Hein. Alors, voici, chapitre 13, hein, 1 roi. Voici qu'un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, d'après la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel d'après la parole de l'Éternel et dit « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici qu'il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias, il sacrifiera sur toi les sacrificateurs des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on consumera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant « Voici le signe du fait que l'Éternel a parlé, l'autel se fendra. » Et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Et lorsque le roi Jéroboam entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il brandit la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le !» Et la main que Jéroboam avait brandie contre lui se trouva paralysée. Et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit, la cendre qui était dessus fut répandue conformément au signe qu'avait donné l'homme de Dieu d'après la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. » Et l'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison pour te restaurer. » Et je te donnerai un cadeau. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi. Je ne mangerai pas du pain, je ne boirai pas d'eau, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas l'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Il s'en alla par un autre chemin, il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Donc jusque-là, on a un prophète avec une obéissance parfaite, qui ne se laisse pas détourner, viens manger, viens te restaurer, viens prendre des cadeaux. Ça, c'était tentant, mais il est resté sur la parole. Plus loin, il y avait un vieux prophète. Attention au vieux prophète, un vieux prophète qui habitait à Bethel. L'un de ses fils vint lui raconter toutes les actions que l'homme de Dieu avait accomplies à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi lorsque les fils eurent fait le récit à leur père. Il leur dit « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Et ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Alors il dit à ses fils « Scellez-moi l'âne. » Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il suivit l'homme de Dieu et le trouva assis sous le térébinthe. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit, « C'est moi. » Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison pour y manger. » Mais il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai pas de pain, je ne boirai pas d'eau avec toi en cet endroit. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu étais allé. Il lui dit alors, moi aussi, je suis prophète comme toi. Un ange m'a parlé en ces termes de la part de l'Éternel. Ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Et il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et mangea du pain dans sa maison et but de l'eau. Et comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné, que tu as mangé du pain et bu de l'eau à l'endroit dont il t'avait dit, tu n'y mangeras pas de pain, tu n'y boiras pas d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans la tombe de tes pères. » Et on sait la suite, c'est que ce prophète va, sur le chemin du retour, va se faire dévorer par un lion, je crois, un animal sauvage. Et puis, le vieux prophète va prendre son cadavre, va l'enterrer. Bref, c'est une sacrée histoire. Hein. On se dit, mais mince, alors, un homme comme ça qui a obéi, qui a quand même obéi jusqu'à loin, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on peut imaginer que la confrontation avec le roi Jéroboam n'a pas été facile, mais il a vu la gloire de Dieu. Et au retour, il s'assoit sous un térébinthe. Donc, le chemin était long, il était fatigué. Et les temps de fatigue, vous savez, les temps où on n'en peut plus, fatigue physique, fatigue spirituelle, sont parfois des temps où on est vulnérable. Et en tout cas ici, il a été vulnérable. Donc, affamé, assoiffé, parce qu'il n'avait pas mangé. Il n'avait pas bu et la route était longue. Donc, il était vraiment dans un état particulier d'inconfort, un contexte de privation. Les contextes de privation sont les contextes, d'après la parole, où on est le plus sujet à la séduction. C'est les contextes de privation. Ça ne marche pas comme on veut. Vous voyez, ça ne marche pas comme on veut. Et le vieux prophète a invité à se rafraîchir, à converser un peu. Et il a répété les instructions. Il a dit, mais je ne peux pas faire cela. Mais le vieux prophète, rappelez-vous, il a dit, mais moi je suis prophète comme toi. Voilà, ben, un ange est venu, etc. Alors, ce jeune serviteur de Dieu a quitté le droit chemin, le chemin qui était inconfortable. C'est ça que je veux souligner. Il y a des chemins parfois inconfortables avec Dieu. Hein? Dernièrement, au niveau du CNEF, ils ont, vous savez que de temps en temps, ils sortent un document théologique et ils ont sorti un document par rapport à une dénonciation de tout ce qui est la théologie de la prospérité. C'est-à-dire que parce que tu marches avec Dieu, de toute façon, tout doit aller comme sur des roulettes. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Et cette théologie-là, elle n'est pas biblique. Elle n'est pas biblique. Dieu est un Dieu qui veut notre guérison, qui veut tout ça, mais il ne nous a pas dit qu'il n'y avait pas de problème. Donc cette théologie-là a été stigmatisée, hein, parce qu'elle n'est pas tellement en vogue en Europe, mais dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est une vague de fond qui vient. Et du coup, les gens lâchent la foi quand il y a la première difficulté qui vient, parce que ça ne rentre pas dans leur théologie, que je puisse aimer Dieu, que Dieu puisse m'aimer, et que je puisse vivre un tel inconfort. Donc c'est ça le problème. Donc si on a une fausse théologie, on est vite à côté. Donc le vieux prophète l'amène et ce serviteur de Dieu, notre jeune prophète, eh bien, il a été attiré par un peu de repos, un peu manger, un peu boire. Et en fait, à ce moment, dans sa situation, le mensonge semblait plus raisonnable que la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'est tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas, tu ne passeras pas par le même chemin. Ça paraît un peu extrémiste. Et donc, parfois on peut se dire, mais ce n'est pas tellement raisonnable, le chemin de Dieu. Il n'est pas tellement raisonnable. Et tout d'un coup, il y a une autre parole qui vient et qui paraît beaucoup plus sympathique. Beaucoup plus sympathique. Alors, or, c'est de notre responsabilité de ne pas nous laisser séduire. Paul, l'apôtre Paul, explique dans Thessaloniciens que s'il y a tant de gens qui se laissent facilement égarer, il parle des derniers jours, il parle de notre époque aussi, hein, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu, l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Donc, l'amour de la vérité, ça aiguise le discernement, ça nous garde de l'erreur. Et ça, c'est quelque chose qui s'entretient, c'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qui se nourrit. Ceux qui ont l'amour de la vérité choisissent de se soumettre et d'obéir, même quand ils ne voient aucun bénéfice apparent. L'amour de la vérité, c'est ça. D'accord ? Je marche dans la vérité, même si je ne vois apparemment, pour l'instant, aucun bénéfice. Mais cet amour de la vérité est plus grand, voyez. Alors, cette attitude de cœur-là, c'est un véritable rempart contre tout mensonge, toute séduction, qui nous attire vers ce qui est confortable. Vers ce qui est confortable. Alors, le confortable, bien sûr, il va prendre l'étiquette « Ainsi parle le Seigneur ». Hein, bien sûr, on va bien spiritualiser les choses. Mais attention là. Et alors, maintenant, j'aimerais vous poser la question. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme clé dans l'attitude du jeune prophète qui nous montre qu'il y a la clé de compréhension du passage? Qu'est-ce que, d'après vous, dans ces paroles à ce jeune prophète, qu'est-ce qu'on peut voir qui nous montre qu'il était déjà un peu à côté, malgré le fait qu'il redise le commandement de Dieu, tout ça? Déjà, il y a une brèche qui s'est faite lorsqu'il parle au vieux prophète. Il y a un discours là. Est-ce que quelqu'un a une hypothèse de la clé de compréhension de l'attitude du jeune prophète? Pourquoi le jeune prophète a craqué, quoi? C'est pas seulement parce qu'il avait faim, soif, mais il y a quelque chose peut-être d'autre. Enfin, allez-y, hein, il n'y a pas de fausse réponse. On essaye de réfléchir. Moi, je ne prétends pas avoir la seule réponse du texte, mais dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Dans le discours du jeune prophète, qu'est-ce qui nous montre le positionnement qui déjà était un peu à côté, quoi? La porte entrebâillée par laquelle l'ennemi s'est engouffré. Bon, il a écouté la voix du vieux prophète. Oui, donc ça c'est vrai, hein. Au fond, il a obéi à cette voix-là. Donc, c'est des histoires de voix, c'est bien, hein. Et c'est comme Adam et Ève, il y a une voix de Dieu, hein, mais puis on écoute d'autres voix. Donc ça, c'est un des cœurs du passage. Donc ça, c'est dans son attitude qu'on voit qu'il a marché, il s'est restauré chez le vieux prophète. Maintenant, dans ses paroles, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous met la puce à l'oreille? Ah, c'est-à-dire? Et voilà. Ce sont des formes négatives. Je ne peux pas revenir chez toi. Je ne peux pas rentrer chez toi. Je ne dois rien manger. Ça met quoi en... Qu'est-ce que ça souligne, ça, cette forme négative? Comment est-ce qu'il vit la volonté de Dieu? Il est frustré. Il est frustré. La volonté de Dieu, à cet épisode-là, est vécue comme une contrainte. Elle est vécue comme un carcan qui t'empêche de faire ce que tu veux. Et ça, c'était la porte ouverte. Je ne peux pas, voyez, je ne peux pas. Alors, regardez, comparons ce genre de paroles avec les paroles de David, psaume 40. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Psaume 119, toujours David, écoutez ça. Je fais mes délices de tes commandements et je les aime. Voyez le contraste. Vous avez un adorateur, David, qui aime les commandements de Dieu, tous les commandements de Dieu. Il y en a qui ne sont pas marrants, hein, mais il les aime parce qu'il aime Dieu, il aime la vérité par-dessus tout. Et vous avez ce jeune prophète dans un état de fatigue qui a commencé à considérer que marcher avec Dieu, ça entravait sa liberté, son potentiel. Bref, vous pouvez mettre des tas de mots là-dessus. Je ne peux pas. Vous voyez, Vincent, Vito. Ouais. Bien sûr. Ouais. 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 Oui. Avec la chaleur. Ouais. Ouais. Mais tout à fait, tout à fait. Il est bien évident que il n'y a aucun jugement pour ce pauvre prophète, et le jugement nous semble bien sévère. Bien sévère. Hein? Oui. Oui. Mais pour l'instant, la clé de l'attitude, ça a été ça. Et qui ne vivrait pas ça, hein, je veux dire. Mais le principe. Oui, Luc? Mais Dieu lui avait parlé personnellement à lui, jeune prophète, et sur cette parole, il a dû marcher. Donc quand on entend une autre parole, on peut la tester, on peut dire est-ce qu'elle est de Dieu ou pas, mais quand elle contredit radicalement ce qu'on a reçu, il y a des questions à se poser. Oui. Que Dieu change ses plans, il le voit tellement fatigué, tellement assoiffé, que Dieu de compassion, oui, c'est ça la séduction, c'est justement ça la séduction. Oui, d'autres. Tout à fait, tout à fait. Pas se précipiter. Ouais.
On reçoit une parole de Dieu, en lisant la Bible par exemple, on est persuadé que c'est une parole de Dieu, et rencontre quelqu'un de plus expérimenté, un pasteur, un ancien, un diacre, qui dit attends, moi ça fait 15 ans que je suis dans le ministère, toi le petit jeune avec ta parole, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut une sacrée force pour faire.
Oui.
Quand les jeunes prophètes, d'être sûr qu'on a réellement reçu de Dieu.
Oui. Bien sûr, bien sûr.
Je crois que avant de porter un jugement sur ce prophète, comment on est nous avec les choses que Dieu nous a données? Est-ce qu'on est réellement sûr? Moi, je sais que j'ai été choqué quand j'ai vu la parole de Dieu. Il y a tout le monde qui lui a dit ne va pas à Jérusalem. Il me dit des actes, la fin de ses complices. Il y a même un prophète qui lui a pris une ceinture, Agabus. Il a dit c'est l'homme à qui, comme j'ai bien fait avec les mains, ira lier à Jérusalem.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est pas simple. Parce qu'on voit quand même la tendance, la séduction, c'est toujours vers le côté plus confortable. Ça, c'est quand même une tendance générale. C'est toujours vers le plus confortable. Ça va aller mieux, c'est plus facile. Et ça, c'est, ça ne veut pas dire que c'est jamais comme ça, mais c'est systématique. La séduction va aller toujours, va, fais-toi plaisir, allez, prends du bon temps, etc. C'est quand même toujours dans ce sens-là. Alors, on ne prétend pas épuiser le sens de ce texte, mais quand même, on ne peut pas marcher longtemps avec Dieu en disant, je ne peux pas faire, je ne peux pas, je ne peux pas. Voyez. Et parfois, quand un jeune voit la foi comme une série, la marche avec Dieu comme des tas de choses qu'on ne peut pas faire, alors il n'est pas prêt, il n'a pas compris. Parce que la marche avec Dieu, c'est toutes les choses qu'on peut faire, justement, avec lui. Donc c'est vraiment un changement. Un deuxième exemple, on a cité David par rapport à l'amour des commandements. Et juste quelques mots sur justement un épisode avec David. Vous savez, quand David s'est enfui dans le désert, persécuté par Saül, il a cherché à échapper à la colère de Saül. Et il y a une nuit, David et un des chefs, Abishai, ils vont se glisser en cachette dans le campement de Saül, à l'insu de tous les gardes, car Dieu, la Bible me dit que Dieu avait plongé dans un profond sommeil tout le camp de Saül. Alors, ils se faufilèrent dans l'armée, au milieu de l'armée endormie, parvinrent jusqu'à Saül qui dormait. Et Abishai dit, il dit à David, « Cette nuit, Dieu met ton ennemi en ton pouvoir. Laisse-moi le frapper d'un seul coup de lance, je n'aurai pas besoin de frapper deux fois. » 1 Samuel 26, verset 8. Donc, les raisons d'Abishai sont assez balèzes, ces raisons. Regardez, de nombreuses raisons pour que demander à David la permission de tuer Saül. Tout d'abord, Saül, il venait d'assassiner 25 prêtres innocents, jeunes, femmes et enfants. Première chose. Donc, est-ce qu'il ne méritait pas quand même un châtiment ? La nation, est-ce qu'elle n'est pas en danger devant un tel fou, quoi ? Il faut faire quelque chose. Premier argument. Deuxième argument, Dieu avait oint David. Parole du prophète Samuel, pour être le prochain roi, est-ce que ce n'était pas le moment de rentrer dans l'héritage ? Est-ce que, voilà. Troisièmement, Saül, il s'était lancé à la poursuite de David avec une armée de 3000 hommes. Pour faire quoi ? Pas pour chercher les champignons, hein, mais pour le tuer. Donc, c'était pas rien. Est-ce qu'il valait pas mieux le tuer lui plutôt qu'être tué ? Autre argument de poids. N'importe quel juge donnerait la légitime défense quand même. Hein. Ensuite, quatrièmement, est-ce que ce n'était pas Dieu lui-même qui avait fait tomber Saül comme ça, toute son armée dans un profond sommeil, justement pour accomplir la prophétie ? Et donc tous ces arguments semblent bons, ils semblent sensés, ils sortent de la bouche d'un frère fidèle. Vous voyez, d'un frère fidèle. Ils étaient tous vrais, ces arguments, mais ils n'étaient pas la vérité. Il peut y avoir des arguments vrais, mais la vérité, c'est encore autre chose. Et la vérité, c'est autre chose. Dieu éprouvait David, c'est Dieu lui-même qui éprouvait David. Pour voir comment il répondrait, quelle sorte de roi serait David ? Alors on va voir ce qui est dans son cœur. S'il y avait une motivation d'avoir le royaume, d'être roi, une seule motivation charnelle, petite, il aurait immédiatement pris l'occasion de tuer Saül. Mais le cœur de David, il n'y avait pas cette motivation. Et donc son cœur a été révélé. Est-ce que David allait se poser en juge ou est-ce qu'il laisserait Dieu juger ? C'est pareil. Et David savait que Saül n'était pas un serviteur pour qu'il se mette à le juger. Si David avait convoité tous les trônes, eh bien là, il serait tombé. Donc, il y a ici quelque chose de fort. La réponse de David, 1 Samuel 26, par rapport à l'amour de la vérité, écoutez ça, David répond, non, ne le tue pas. Si quelqu'un fait mourir le roi que le Seigneur a consacré, il sera puni. Par le Seigneur vivant, je te le dis, c'est le Seigneur lui-même qui le fera mourir, ou bien il mourra de mort naturelle, ou bien il sera tué à la guerre, mais que le Seigneur m'empêche de tuer le roi qu'il a consacré. Maintenant donc, prenons la lance qui est près à la tête du roi avec sa gourde d'eau et partons. Vous voyez, son amour pour la vérité de Dieu était plus grand que tout le reste. Il voulait que la vérité de Dieu soit exaltée au-dessus de son intérêt personnel. L'amour de la vérité, c'est ça. C'est exalter cette vérité au-dessus de son intérêt propre. Ça, c'est le test de l'amour de la vérité. Alors, si nous voulons que la séduction, la tromperie, n'ait pas de prise sur nous, on doit permettre au Saint-Esprit de créer un amour brûlant pour la vérité au plus profond de nos cœurs. Ça, c'est paraît déterminant. Psaume 37, regardez, il y a un merveilleux passage par rapport à... J'aime beaucoup ce psaume parce qu'il est question de l'héritage et on parle beaucoup d'héritage dans cette église. Et je crois qu'on n'a rien vu encore. Hein, il y a un grand héritage. Mais l'attitude de cœur pour prendre l'héritage, elle est dans le psaume 37. Et cette attitude, elle est là. Mets ta confiance dans le Seigneur. Fais ce qui est bien. Alors tu resteras dans le pays en toute sécurité. Trouve ta joie dans le Seigneur. Il te donnera ce que ton cœur désire. Confie ta vie au Seigneur et confiance en lui. Il agira. Il fera paraître ton innocence comme la lumière du matin et ta juste cause comme le soleil à son midi. Reste en silence devant l'Éternel. Attends-le. Donc voyez, David nous enseigne à avoir une drôle de pâture. La fidélité pour pâture. La fidélité, c'est un pâturage. Et tandis qu'on attend les promesses de Dieu, on reste fidèle. Et même si ces promesses, elles tardent. Donc il y a des périodes dans la vie où il y a des moments où réciter les promesses, se les rappeler, ça ne suffit plus. C'est-à-dire, on ne les voit pas se réaliser parfois, certaines d'entre elles. Et alors l'adversité, elle vient. Les exaucements ont l'impression de s'enfuir loin de nous. À ces moments-là, c'est dans ces moments-là où on doit s'encourager dans le Seigneur, nous confier dans sa fidélité, sachant qu'il accomplira sa parole. Vous voyez, ça, c'est vraiment important. Parfois, on voit ce verset, on dit, si tu mets ton cœur dans le Seigneur, il va te donner ce que ton cœur désire, si tu le cherches, si tu te confies en lui. Donc, tout ce que ton cœur désire, il va te le donner. Mais ce n'est pas une bonne lecture de ce passage. Ce passage nous dit, il nous exhorte à faire nos délices du Seigneur, à lui remettre toutes nos voies. Ce n'est pas rien, hein? Et Dieu en retour met des désirs qui sont justes. Voyez. Alors Paul aussi, c'est impressionnant. Le plus grand désir de David, c'était la gloire de Dieu. Vraiment, c'était plus que lui. Le plus grand désir de Paul, c'est pareil. C'est quoi le désir de Paul? Le vœu de mon cœur, dit-il. C'est des passages extraordinaires, ça. Ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. C'est-à-dire, la vérité de Dieu, elle est rarement, elle n'est pas centrée sur nous-mêmes. Et on voit Paul qui était centré sur les autres. Mon vœu le plus cher, c'est qu'il soit sauvé. Il y a un désir qui est là, il y a un fort désir. Nous souffrons tout, dit Paul, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Que tous puissent être sauvés. Ça, c'est le cœur. Que tous puissent connaître Dieu. Que tous puissent marcher avec lui. L'apôtre Jean, pareil, regardez. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Donc, aimer la vérité, marcher dans la vérité, et ça c'est le principal rempart à toute séduction. Alors Paul, il a écrit dans une époque difficile, périlleuse pour la foi, hein, et parce que l'amour de soi, j'ai noté, l'argent, le plaisir, ça éclipserait l'amour de la vérité. En fait, l'amour de la vérité ne va pas avec l'amour de soi en premier, ou l'amour de l'argent en premier, ou l'amour de tout ça. Ça ne va pas ensemble. Il y a un amour de la vérité, je crois qu'il y a une prière que l'on peut vraiment faire, qui est « Seigneur, ravive cet amour de la vérité ». Et il y a, dans 2 Timothée 3, il y a des gens qui disent, ils apprennent toujours la vérité, ils l'apprennent toujours, croyant pouvoir atteindre la vérité, puis ils n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Donc, la vérité, c'est plus qu'un enseignement, on l'a bien compris. La vérité, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même. Il est la vérité, le chemin, la vie. Parfois, on veut la vie, et la vérité, c'est plus difficile. Apprenons à aimer le chemin, quel qu'il soit, à aimer la vérité et à aimer la vie en même temps. Ne soyons pas des chrétiens qui aiment la vie au détriment de la vérité, ou qui aiment la vérité au détriment de la vie, ou qui aiment la vie au détriment du chemin pour y aller, etc. Les trois vont ensemble. La vérité transforme. La vérité, c'est donc Jésus. Et je termine en disant que ceux qui aiment la vérité aiment Jésus. Aiment Jésus. Jésus est la vérité. C'est-à-dire, on peut dire « j'aime la parole de Dieu ». Mais c'est quoi la parole de Dieu ? Ça aussi. Vous savez, la parole de Dieu, c'est le Christ. C'est pas rien quand même. Tu peux mettre tous les grands commentateurs du monde, tu peux aimer plus la vérité que Jésus lui-même, ça, il y a un problème. La parole de Dieu, c'est le Christ lui-même. Et c'est avec lui qu'on veut la lire. Voilà un peu les quelques pensées que j'avais pour ce matin. Alors, que le Seigneur ravive le désir de vérité, l'amour de la vérité. Psaume 51, tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Psaume 85, la bienveillance et la vérité se rencontrent. Quand on aime la vérité, il y a beaucoup de bienveillance. Il y a beaucoup de bienveillance. Il est question d'aimer Dieu, c'est le premier commandement. Tu aimeras Dieu. En fait, on revient à une question d'amour. L'amour de la vérité, c'est d'abord l'amour. D'accord ? Et quand il y a l'amour, que ce soit la vérité, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour pour la nation, eh bien ça se sent. Et l'amour, c'est toujours près de l'amour de la vérité. Voyez ? Eh bien Seigneur, merci pour ta parole. Et moi, vraiment, je te demande, Seigneur, que nous puissions être ravivés dans l'amour de la vérité. Que les jours où nous sommes fatigués, où nous serions fatigués, comme ce jeune prophète, après avoir vu ta main, avoir vu ton onction, avoir vu ta délivrance par rapport à la main paralysée du roi, avoir vu ta gloire, Seigneur. Parfois, il y a des temps où on peut être assis et puis chercher le repos, mais dans le sens voir tout comme des contraintes. Et Seigneur, toi, tu nous donnes de nous relever. Tu nous donnes, Seigneur, d'aller au bout des missions que tu nous confies. Seigneur, j'appelle ta bénédiction sur chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous sommes prophètes. Dans ce sens, ayant la capacité d'entendre Dieu et de marcher avec lui dans cette nouvelle alliance. Seigneur, que chacun d'entre nous, on puisse accomplir les missions que tu as pour nous jusqu'au bout, sans nous arrêter, sans nous détourner par des sirènes ou des chants qui nous éloignent de toi. Seigneur, viens raviver l'amour de la vérité dans nos cœurs, dans ton Église, dans le nom de Jésus, le cœur de David, le cœur de David, Seigneur. Merci Jésus. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Ravive l'espérance, ravive l'amour pour toi et l'amour pour la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Voilà.